Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Que reste-t-il du mythe selon lequel Français et Allemands seraient des ennemis héréditaires, Brice ?
Eh oui, cela peut paraître risible et anachronique aujourd'hui, alors que nous nous gaussons d'exercer avec l'Allemagne un directoire commun sur l'Europe des 27. Remarquez, parmi les 25 autres, beaucoup s'en accommodent. Si la France et l'Allemagne sont parvenus à surmonter leurs divergences, raisonne-t-il, c'est le signe que nous-mêmes y trouverons notre compte. Les deux pays ont des intérêts et des conceptions si différents en tout. Mais les relations entre nos deux pays ont-elles jamais vraiment cessé d'être empreintes de défiance, voire d'inimitié ? Au niveau des conversations du café du commerce, les préjugés ont la vie dure. Les Allemands nous jugent prodigues et inconséquents, dépourvus des moyens de nos vastes ambitions. Nous les tenons, nous, pour égoïstes et radins, inutilement précautionneux, lent à la détente. Dans l'Union européenne, nos deux traditions s'équilibrent. Car, comme l'a montré Luc van Middelaar, les Allemands conçoivent prioritairement la politique sous l'angle de la régularité par le respect des normes. Cette politique de la règle exige le compromis et elle s'exerce sous supervision judiciaire. Les Français, eux, sont habitués par leur histoire à une politique de l'événement, qui réclame l'incarnation et favorise un pouvoir décisionnaire, exactement ce dont les Allemands ont appris à se méfier. Là où le président de la République peut décider souverainement et sur l'heure, la chancelière doit obtenir l'accord de ses partenaires de coalition, du Bundestag, des Länder et de la cour de Karlsruhe. Nos gouvernants ne vivent pas dans le même espace-temps. C'est l'une des causes, avec l'histoire, de la grande divergence franco-allemande à propos de la monnaie. Les Français considéraient par tradition qu'il appartient au pouvoir politique de manipuler à sa guise la valeur du franc pour compenser nos pertes régulières de compétitivité. Nos rois, déjà, dévaluaient régulièrement la monnaie pour se débarrasser des dettes de leur état dilapidateur. À l'opposé, les Allemands sont tétanisés par l'expérience de l'hyperinflation de 1922-23 qui a ruiné leur classe moyenne et surtout par celle des années 30 qui a beaucoup fait pour propulser Hitler à la chancellerie. C'est pourquoi ils ont exigé que l'euro soit déconnecté du pouvoir politique, que sa gestion dépende d'une banque centrale indépendante et pour plus de sûreté. Et ils l'ont fait installer à Francfort.
Mais Brice, les guerres d'autrefois ont bien laissé dans les esprits des empreintes. Comment les caractériser ?
Ce sont des questions pour historiens. Et justement, vient de paraître un livre signé par deux professeurs d'histoire, Hélène Miard de la Croix, qui est professeure à la Sorbonne Université, et Andreas Wirsching, qui dirige l'Institut für Zeitgeschichte, l'Institut pour l'histoire contemporaine de l'Université de Munich. Ennemis héréditaires, c'est le titre de ce livre, tous deux sont des spécialistes de l'histoire des relations franco-allemandes. Et plutôt que de soumettre leurs lecteurs à l'exercice rébarbatif des contributions successives, ils ont eu l'idée de donner à leur livre la forme d'un entretien à bâton rompu, et c'est assez réussi. Voilà, nous autres Français, nous avons complètement oublié les dévastations commises par les troupes de Louis XIV lors du sac du Palatinat en 1688-89. Les villes de Heidelberg, Mannheim, Worms, Oppenheim, Bingen ont été incendiées par nos très valeureux soldats et les ruines du splendide château de Heidelberg, détruit par les Français, ont été instrumentalisées par tous les gouvernements nationalistes allemands pour alimenter les passions anti-françaises. Il est paradoxal, en effet, de constater que l'image que nous nous sommes longtemps fait d'une Allemagne belliqueuse a son exact équivalent de l'autre côté du Rhin. Avant 1870, pour les Allemands, ce sont les Français qui passaient pour des occupants dévastateurs. Mais bien sûr, la première et la grande différence entre nos deux pays, la plus fondamentale, elle tient à l'ancienneté. Car si la France a célébré son unité nationale le 14 juillet 1790, eh bien celle-ci existait déjà en tant que nation depuis bien des siècles par le patient ouvrage de nos rois. Par contre, il y avait des Allemagnes, mais pas d'Allemagne. Le Saint-Empire romain germanique comptait plus de 300 principautés, grands duchés d'opérettes, villes libres et autres micro-états indépendants lorsque Napoléon Ier l'a dissous en 1803, laissant d'ailleurs à Talleyrand le soin de redessiner la carte politique des Allemagnes à l'avantage de la France. L'Allemagne, en tant que sujet politique, est née sur le tard, le 18 janvier 1871, lorsque les princes allemands et le commandement militaire vainqueur de la France de Napoléon III proclamèrent Guillaume Ier, roi de Prusse, empereur d'Allemagne. Ils avaient choisi pour cette cérémonie un lieu archi-symbolique, la Galerie des Glaces du château de Versailles, une manière délibérée de profaner la mémoire du roi Soleil, son ancien propriétaire, le fameux saccageur du Palatinat. Formidable lieu de mémoire, vous me direz, des querelles franco-françaises, cette Galerie des Glaces, puisqu'elle a accueilli en 1919 la conférence de paix organisée entre eux par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et savez-vous quelle date avait choisi Clémenceau pour son inauguration? Eh bien, le 18 janvier, justement.
Merci beaucoup, Brice Couturier. Ennemi héréditaire. Point d'interrogation, hein. Il y a un point d'interrogation, oui. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure. Le dialogue franco-allemand, c'est paru chez Fayard?
C'est paru chez Fayard et les auteurs sont donc Hélène Mire de la Croix et Andreas Wirsching.
Hélène Mire de la Croix qu'on a l'habitude d'entendre ici à ce même micro. Merci beaucoup, Brice Couturier.